Donc je suis avec Manit de l'association Gratitude, je suis dans leurs locaux. Vous êtes en train d'organiser, là demain c'est le nouvel an cambodgien, c'est ça?
Oui.
Donc c'est une association qui a ouvert les locaux ici, c'était il y a à peu près un an, vous m'avez dit?
Oui, ça fait un an cette année.
Et donc c'est une association à but non lucratif, c'est pour récupérer des fonds pour, vous allez m'expliquer, c'est construire des locaux au Cambodge, mais vous allez mieux m'expliquer je pense, parce que c'est pour les enfants, mais aussi des retraités.
Alors notre but de notre association... C'est pour récolter des dons pour aider les enfants qui sont dans les rues de Cambodge et les personnes âgées qui sont seules, qui sont victimes de guerre et qui n'ont plus du tout de famille et qui n'ont plus du tout un toit, qui vivent à la rue aussi. Mmh. Voilà.
Donc c'est suite à la guerre civile du Cambodge dans les années 70, c'est ça? Pour ce qui est des retraités?
En fait, oui, exactement, c'est la suite de tout cela et ça continue. En fait, la guerre, c'est un peu dans le monde entier. La pauvreté, ça se passe dans le monde entier aussi. Mais si chacun de nous peut les aider un petit peu de chaque, ce serait formidable. Et donc, on fait ce qu'on peut, nous, avec les membres de bénévolat.
Donc voilà, c'est une association qui marche au bénévolat. Vous avez beaucoup de bénévoles qui vous aident pour l'instant. Il y en a quelques-uns ici que je vais interroger après.
Il y en a pas mal, oui. Il y en a pas mal, mais bon, après, c'est des jeunes. Nous, ce qu'on voudrait, c'est aussi des personnes qui sont retraitées puissent venir nous aider aussi. Et puis dans le but de l'association, c'est pour aider aussi les personnes âgées ici qui sont seules aussi et qui peuvent venir échanger leur quotidien et se rassurer parfois. Mm-hmm. Puis les jeunes aussi, s'ils peuvent trouver un petit bout de leur chemin pour les réconforter sur leur chemin de vie, ce serait formidable.
Alors, vous êtes ouvert tous les jours, ici?
On est ouvert
presque
tous les midis, voilà. Tous les midis, pas le soir.
Et donc, vous proposez donc des plats cambodgiens à un petit prix, généralement
Oui, le prix, elle est de 5 euros. Ce sont des plats typiquement là-bas, que vous en mangerez pas ça au restaurant, parce que les restaurants, c'est différent.
Ouais.
Et on veut pas concurrencer les restaurateurs non plus, donc je les comprends. Chaque
restaurant fait un peu à sa sauce en fait en quelque sorte.
Oui.
Et justement vous me disiez hier que c'était une cuisine pas forcément mais un peu adressée plutôt aux jeunes
à la découverte pour se redynamiser leur alimentation.
Ouais.
Parce que beaucoup de jeunes et beaucoup de nous d'ailleurs on n'aime pas trop manger les légumes, donc je les transforme des légumes en plats salés ou en sucrés.
Alors justement la cuisine cambodgienne moi je connais un tout petit peu, mais comment est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu quelles sont les bases en quelque sorte de la cuisine cambodgienne?
Alors, la base de la cuisine cambodgienne, c'est beaucoup d'épices.
Mm-hmm.
Et chacun de nous, on est conscient, les épices, c'est quand même presque, je ne veux pas employer le mot médicinal, mais ça nous aide. Par exemple, le citronnel, ça permet de renforcer les os. Le curcuma, ça aide à garder la forme. Après, il y a plein d'épices encore que je ne vais pas tout vous réciter,
ouais.
C'est le recette secret. Mais si jamais quelqu'un souhaite venir faire des bénévolats ici pour se former en cuisine, je peux les former, je l'expliquerai au fur et à mesure.
Alors voilà, parce que justement, en plus, ça doit être assez intéressant de cuisiner des plats cambodgiens. C'était pas forcément des ingrédients qu'on trouve, nous, dans la cuisine traditionnelle française. Je voulais aussi vous poser la question, comme ça a ouvert ici il y a un an, l'association Gratitude, elle est née en même temps que le lieu ou elle existait déjà avant, depuis quelques temps?
L'association, elle a déjà été créée, je crois, je me souviens pas trop là, je crois 6 mois. Mmh. 6 mois après on a le temps de trouver un local fixe.
D'accord. Et en fait l'idée de base, ça vous est venu d'où en fait, cette décision de créer cette association et ce lieu de partage et d'aide aussi pour les jeunes?
Alors, l'idée de base, ça vient d'où? Ça vient depuis mon enfance déjà. Mmh. Depuis mon enfance en fait, c'est pour ça qu'on l'appelle la gratitude. La gratitude, c'est le fait que j'ai quitté le Cambodge, il y avait la guerre. Aujourd'hui, je suis relevée. Les Français m'ont aidé de se mettre debout. Aujourd'hui, je suis autonome. Et donc, c'est à mon tour aussi de pouvoir venir aussi les aider à mon tour, que ce soit les peuples français ou les peuples asiatiques. Si je peux, je continuerai jusqu'à temps que je peux. Mais la base de cette création de cette association, c'est moi-même, j'étais victime de guerre. Moi-même, j'étais privée de l'amour d'une mère aussi. Aujourd'hui, si je peux aider les enfants qui reçoivent un peu de l'amour de chacun de nous. Ce serait quelque chose de merveilleux et c'est édifiant dans ce que nous faisons aujourd'hui. D'accord. Donc je continuerai à le faire.
Et justement aussi, c'est une association qui vise en fait à aider les jeunes qui sont là-bas en fait, sans les déraciner de leur terre justement.
Surtout, faut pas les déraciner parce que moi je suis aussi un petit panzai qui s'est déraciné, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile. Ouais. Donc le but c'est de garder ces enfants là-bas. C'est pour ça le but, c'est pour récolter des dons, pour construire un foyer, que pour ces enfants puissent rester là-bas et que nous les Français qu'on puisse aussi profiter, aller le voir un autre monde qui est différent que les nôtres et qu'on puisse aussi se donner une valeur à soi-même, les gens qui sont en Europe, parce que en fait avec rien on peut vivre s'il y a l'amour et les enfants là-bas ils demandent rien, ils demandent juste l'amour, notre présence, c'est tout.
Justement, la situation au Cambodge elle est encore assez difficile après la guerre civile et la dictature. En ce moment, vous pensez que ça, c'est de mieux en mieux, que ça progresse?
C'est une très bonne question. Alors, oui, ça progresse, mais comme nous savons tous, comme en France, en Europe, ça progresse, mais dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, alors c'est-à-dire les riches, c'est toujours les riches, voilà. Et les pauvres sont toujours les pauvres, ils sont très démunis et personne ne le regarde. Et aujourd'hui, la situation change, mais c'est que de l'argent qui compte.
Oui.
Donc, moi, j'en vois dans certaines associations, j'en cite pas d'autres noms parce que je veux être persévérante là-dessus. Et après mon voyage il y a 8 ans, je suis rendue dans une petite campagne. J'ai vu des associations qui ont dit je vais créer association pour créer des écoles, etc. Et je me suis aperçue qu'en fait, l'école, même à la campagne, c'est payant. Ah oui. Je sais pas où, je sais pas où vont l'argent pour les associations, mais les enfants, ils vont à l'école et c'est payant. Et aujourd'hui, l'école payante, ça pousse comme des champignons et je trouve ça lamentable pour moi. Et en fait, l'école, moi je dis c'est très bien l'école, la culture en littérature, c'est très très bien parce que c'est comme ça qu'on vit dans un nouveau monde qui est enrichissant. Mais sauf là, on vit dans un nouveau monde mais qui est en train de périssable et qui est de l'artifice et je suis pas d'accord. Donc moi, ce que je veux, c'est d'abord créer un lien, c'est d'amour, un foyer et par la suite, j'envoierai les enfants à l'école ou vous, ceux qui sont bénévolats, qui connaissent l'association, plus tard, vous souhaitiez aller 2 ou 3 mois ou 6 mois pour justement les aider à donner littérature, leur apprendre comment c'est notre monde, commencer à vivre les anciens, etc. Parce que ces enfants-là, ils ont vraiment besoin. Et sans oublier les gens qui sont à mon âge aussi, qu'ils ont aussi besoin parce qu'ils sont relevés d'une guerre, qu'ils n'ont jamais étudié.
Et d'une dictature où, on persécutait les intellectuels globalement.
Tout à fait. Ah oui, oui. Ah bah ça a été effacé, ça.
Et justement, c'est un pays qui a besoin, plus peut-être qu'un autre en soi, actuellement, d'avoir un accès à la culture et particulièrement à l'école gratuite, par exemple.
Par exemple, oui. Ah oui, par exemple, ça, l'école gracieusement, c'est idéal pour les gens là-bas, pour qu'ils puissent relever. Mais malheureusement, la situation, elle est assez critique parce que, comme je vous le dis, l'école, ça pousse comme des champignons. L'école est toute payante.
Mais c'est cher.
L'école, il est assez onéreux.
Ouais.
Ouais,
il y a le matos aussi à acheter.
Il y a plein de choses. C'est une école privée, du coup, parce que vous avez chacun, ça transforme en business. Voilà. Alors, il y a des hôtels qui poussent partout. Comme je vous dis, c'est les gens riches qui... En fait, c'est nous, les Européens, qu'on a envahis là-bas. Et on croit que tous les étrangers sont envahis en France, mais en fait, les Européens sont partis envahis l'Asie.
On a envahi le Cambodge, le Laos, le Vietnam, les Français particulièrement.
Vous êtes très aimés, vous, les Français, les Asiatiques vous aiment beaucoup, et c'est vrai, on se rend pas compte, mais vous nous faites pas du tort, mais il y a quand même, vous allez là-bas dans le but de business quand même, vous profitez quand même un petit peu, le climat d'une part, et puis la pauvreté pour vous enrichir, entre guillemets, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, mais nous, on reste dans notre association Gratitude, voilà, le nom, elle porte bien son nom, Gratitude, c'est faire des choses gracieusement et avec la générosité, avec de l'amour. Voilà.
Eh ben, je vous remercie. C'est une belle conclusion. On va continuer à parler un petit peu aussi de cette association et de ce qui se passe autour, avec notamment aussi une danse qui va être présentée.
Pour une nouvelle langue cambodgienne.
Voilà.
Donc demain, c'est une nouvelle langue cambodgienne. Et puis regardez les informations aussi. Et puis venir profiter un petit moment avec nous. Ça fait toujours chaud au cœur pour les enfants qui reçoivent les messages chez nous.
Merci.
Merci à vous.
Je suis toujours avec les membres de l'association Gratitude. Je suis en compagnie d'Ismaël. Ismaël, tu es l'un des bénévoles de cette association. Tu es assez jeune, t'as quel âge ?
Alors j'ai 20 ans.
Voilà. Comment t'as découvert cette association à la base ?
Alors c'est ma mère qui a connu Manit par le Kung Fu sur Alençon. Et du coup, Manit nous avait invité à manger à l'association Gratitude.
Et donc tu as décidé de faire du bénévolat après ?
Oui. Alors j'ai su qu'elle avait besoin d'aide et comme moi j'ai pas mal de temps libre en ce moment, ça me permettait voilà, d'avoir une expérience dans la cuisine collective et c'est un bon point à mettre sur le CV et puis même ça me fait plaisir de servir les gens, de garder une activité sociale.
Bah ouais, c'est carrément ça. Et justement, au niveau, bah, tu dois apprendre pas mal de choses au niveau cuisine, je pense. Pour le bénévolat, ça doit être plutôt pas mal. T'as appris à faire pas mal de plats
Oui, c'est vrai que j'ai un panel de plats plus important maintenant.
C'est ça. Bah justement, aussi, je vais te demander, donc bénévolat, d'une manière générale, en fait, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que c'est vraiment une activité que tu avais envie de faire avant ? Tu en avais déjà fait dans d'autres associations ou c'est la première fois ?
Alors, moi, c'est la première fois. Pour moi, le bénévolat, c'est une bonne expérience parce qu'on aide en même temps et on gagne en expérience. Ça dépend ça dépend. Bah, là, par exemple, je gagne en expérience dans le service, dans la cuisine, apprendre à travailler à un certain rythme et je trouve ça plutôt intéressant.
Ouais. Et justement, tu serais. Donc, en fait, tu comptes rester longtemps bénévole ici
Oui, oui.
Est-ce que, après, je vais te demander, mais au niveau des bénévoles, vous en cherchez sûrement beaucoup. Qu'est-ce que tu dirais à d'autres jeunes, si jamais ils nous écoutent, ou pas forcément que des jeunes ? Parce que Mani, t'as dit aussi que des retraités, ça passe aussi, hein, carrément. Il faudrait aussi des gens âgés pour qu'ils puissent aussi sociabiliser d'une certaine manière. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les faire venir ?
Moi, je dis venez, il y a une bonne ambiance ici, et Mani, elle est très sympa. Et c'est lire les lignes de la main aussi, c'est très marrant.
Ah ouais, c'est vrai, faudrait que j'essaye.
je sais pas
c'est
si
le
c'est
le chemin du bonheur ici.
Elle me dit de dire c'est le chemin du bonheur ici.
Bah, c'est clair, bah, je te remercie beaucoup pour ton
plaisir.
Intervention. J'espère que ça va bien se passer. Voilà, la suite aussi du nouvel an, là ça continue, il y aura pas mal de monde, un spectacle. Et puis c'est vrai qu'il y a d'autres bénévoles aussi encore à interviewer. Et on continue notre petit reportage avec l'association Gratitude. C'est aujourd'hui une nouvelle en cambodgien. Je suis en compagnie de Boris. Boris qui fait partie de l'école de kung-fu de Condé-sur-Sarthe. Et on vient d'insister c'est la cérémonie, la danse du lion devant l'association Gratitude. Bonjour Boris, comment ça va ?
Eh bien ça va très bien. On vient de terminer. Et c'était très puissant. À chaque fois ça nous donne le frisson. On rentre vraiment dans la tradition du lion. Et pour ceux qui connaîtraient pas la légende, l'importance du lion vient en fait de la Chine traditionnelle, de la Chine impériale. Donc dans les temps reculés de cette Chine impériale, deux villages étaient en guerre et l'un était en infériorité numérique très très nette. Et le lion est arrivé et s'est mis du côté des plus faibles et a retourné la situation. Et donc ils ont gagné la bataille. Et depuis, le lion est devenu le symbole des situations de la chance, bien sûr, ouais. et du retournement de situation dans le bon sens.
Et des
voilà.
Plus faibles aussi, en quelque sorte.
En quelque sorte, et effectivement. Et maintenant, les Chinois, aujourd'hui, donc le lion est très important pour les Chinois, c'est la chance. Et donc ils vont jamais faire un nouvel an sans danse du lion, un mariage sans danse du lion, et puis également une ouverture de commerce où, voilà, pour apporter la chance à un lieu, etc. Voilà. Donc c'est pour ça que... Alors les danses du lion sont faites par des écoles de kung-fu.
D'accord.
Donc ce ne sont pas des artistes, c'est vraiment du kung-fu, mais mise en scène avec de la musique.
D'accord. C'est ça, c'est au niveau des mouvements en fait... Des deux personnes qui sont dans le costume. Là, c'est que des mouvements en fait sportifs. Enfin, ça a l'air assez fatigant quand on voit ce qu'ils font.
Et il faut savoir aussi qu'à l'intérieur du lion, on voit pas grand-chose. Donc celui qui est derrière, qui fait la queue, il regarde le sol. Voilà, c'est tout ce qu'il voit. Et puis celui qui est devant, il voit juste par l'interstice de la bouche un petit peu ce qui se passe. Voilà. Donc il fait très chaud là-dessous. Et puis voilà. Et alors les danses du lion sont intéressantes parce qu'en fait elles font vivre les écoles de kung-fu. Hein, une école de kung-fu à Hong Kong par exemple, c'est un maître avec des disciples, une vingtaine de personnes qui en fait vivent en famille, tous ouais. ensemble. Et la danse du lion est une prestation qui est rémunérée ouais. et qui apporte de l'argent et qui permet de faire vivre le club, d'acheter du matériel, de vivre, de manger tout simplement. Voilà.
Ouais, et c'est donc quelque ça... chose qui est très utilisé là-bas, comme tu disais, c'est une ouverture de commerce, tout
à fait. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est vraiment une tradition, je veux dire, toute école de kung-fu a sa danse du lion et on voit même des combats de danse du lion entre écoles de kung-fu. Donc ça c'est très intéressant aussi. Voilà. Donc là en fait on a plusieurs personnages. On a le lion qui est composé de deux personnes
ouais, et un ensemble de. Vous étiez en train de faire du coup des percussions.
Des percussions.
Derrière.
Voilà, des cymbales. Alors pas toujours très très musical. Ça fait beaucoup de bruit et en fait c'est destiné à ça. C'est-à-dire qu'en fait on fait du bruit pour éloigner les mauvais esprits.
Ouais.
Autre chose que je peux vous dévoiler, c'est que
ça rythme aussi un peu la danse. En quelque
ça sens. Rythme la danse. C'est très codifié. Tout est très très codifié. On salue à gauche, on salue à droite, on salue au milieu, mm-hmm. on bénit la porte du local, on bénit les propriétaires, etc. Et il y a plusieurs actes, dont le lion ivre. Donc Bouddha va oublier sa gourde pleine d'alcool de riz voilà. par terre, et le lion va s'approcher. Il a très envie de la prendre, mais il est méfiant, donc il va bondir en arrière, et il va se dire, il y a peut-être du poison là-dedans. Voilà. Il va y retourner, et donc trois fois, il va refuser d'y aller, puis la quatrième fois, il va boire jusqu'à se saouler, il va tomber par terre. On pense que le lion est mort et c'est là où le tambour bat très lentement. Le tambour étant le symbole du cœur du lion.
D'accord.
Donc c'est le battement du cœur du lion.
D'accord.
Donc là on a l'impression que tout va s'arrêter et que c'est la catastrophe, le lion est mort, c'est horrible. Et non, le lion redémarre parce qu'il trouve toujours la ressource, etc. etc. Voilà.
Et justement, la personne qui était dans le Bouddha, c'est propriétaire du commerce généralement
Non, pas en général, mais là il se trouve que Manit, la responsable de Gratitude, de l'association Gratitude, fait le Bouddha pour la danse du lion. Donc c'est elle qui a pris le costume. Sinon, effectivement, les gens font des offrandes au lion voilà. dans des petits sachets rouges qu'on appelle les rambao. Et donc ils mettent une offrande au lion avec l'idée qu'ils donnent à deux mains, puisque en Asie on tend les offrandes à deux mains. Et le lion les accepte et se souvient des personnes. Bon, en Asie c'est toujours très lié à l'argent, donc un don d'argent, on peut pas oublier la personne qui nous a donné de l'argent, donc le lion va se souvenir
d'accord.
de ces personnes dans les moments difficiles.
Faut faire un vœu, on est.
Voilà, exactement. Et puis après il y a la cérémonie de la salade qui est vraiment une bénédiction. Donc le lion va attraper la salade. Là aussi il a peur, il sait pas s'il y a pas des ennemis derrière qui vont l'attaquer pendant que il attrape la salade. Donc il se retourne, il vérifie à gauche, à droite, et puis après il attrape la salade, il est tout excité. Et puis à un moment il crache la salade sur les spectateurs. Ils font comme nous avec le champagne, ils prennent la salade et ils se frottent. Donc, vous savez le champagne qu'on se met derrière les oreilles pour la bonne fortune. Et ben eux ils se badigeonnent avec la salade que le lion a recraché. Le lion l'a recraché parce qu'il était en train de s'étouffer et donc il fallait absolument qu'il expulse pour la. Voilà, c'est un petit peu tout le. Voilà, les gens voient pas toujours ça, mais effectivement là les auditeurs vont pouvoir pénétrer un peu plus dans la symbolique et dans le.
Ouais, parce que c'est une danse qui fait partie d'un imaginaire qu'on a tous déjà vu en quelque sorte les images de ces danses où on a tous ça en tête, mais c'est vrai que c'est avoir un peu le sens derrière, c'est toujours intéressant de savoir quelle est la raison, la légende qui est à la base, et puis aussi pourquoi est-ce que c'est toujours aussi important maintenant et pourquoi est-ce qu'on le fait toujours.
Oui, tout à fait, c'est une tradition qui mourra jamais. Ça a été perpétué par de nombreux maîtres de Hong Kong. Nous on a la chance d'avoir appris avec maître Liu Fok, qui en fait est 5 fois champion de danse du lion mondial.
D'accord.
Donc on est à bonne école et c'est un type extraordinaire. Je vous conseille ses vidéos, c'est toujours fantastique. Alors eux ils pratiquent sur des pylônes qui sont hauts de 3 mètres, c'est très dangereux, et les pylônes en général symbolisent la montagne, c'est-à-dire que le lion va chercher de la nourriture derrière la montagne, il y a toujours une histoire. Ou alors le lion va derrière la montagne et il aperçoit une lionne, une charmante lionne, alors il est tout émoustillé, etc. Et donc en fait il y a plein d'histoires, on raconte des histoires, il y a des actes et c'est ponctué et donc on raconte toutes ces histoires, voilà. Et les Chinois en raffolent, mais ils en raffolent. Et quelquefois le lion jette des choses dans la foule, distribue des voilà, c'est comme Johnny qui lance son t-shirt, quoi. C'est un peu ça, quoi, voilà. En gros c'est ça. Donc voilà, mais nous on s'amuse énormément, ça soude le club, ça soude le groupe.
Oui.
Voilà, c'est une vraie famille. Après on se sent famille.
Attends, pour terminer, on parle un petit peu du club justement. Ça fait combien de temps que le club de Kung Fu de Condé-sur-Sarthe est ouvert?
Alors, je pense qu'il est ouvert. Il faudrait demander à Arnaud, donc le patron. Mais je pense qu'il est ouvert depuis une douzaine d'années et il fonctionne très bien. Il est au club de tennis de Condé-sur-Sarthe et on s'entraîne donc tous les mercredis soirs à 19h30 mmh. et tous les vendredis soirs à 20h. Et il y a un cours pour les enfants qui est le samedi matin à 10h.
Voilà, n'hésitez pas, chers auditeurs, si vous voulez pratiquer un peu le kung-fu à Condé-sur-Sarthe, il y a un club. Je te remercie beaucoup, Boris, d'avoir répondu à mes questions.
Écoute, c'était un plaisir, je suis encore tout ému de cette
vous en voilà. faites beaucoup d'ailleurs, vous en faites souvent?
On en fait dès que possible, voilà. Là, un mariage est prévu, un mariage chinois, donc ils vont surtout pas faire un mariage sans danse du lion, voilà. Et ça va leur apporter la chance, j'en suis sûr.
Je vous remercie et puis à la prochaine.
À la prochaine, avec plaisir.